en séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Le jeudi 22 juin 2006 s'est déroulée sous la coupole de l'Institut de France la séance de réception d'Assia Djebbar à l'Académie française élue en 2005. Canal Académie retransmet le discours d'Assia Djebbar en éloge à son prédécesseur Georges Vedel, ainsi que le discours prononcé par Pierre Jean-Rémy pour accueillir la nouvelle élue. Assia Djebbar, en effet, est venue y prendre séance et a prononcé, selon l'usage, le discours d'éloge de son prédécesseur au fauteuil numéro 5, le doyen Georges Vedel. Et Pierre Jean-Rémy, de l'Académie française, a prononcé en réponse le discours de réception d'Assia Djebbar, dont les parrains sont ses confrères, Florence Delay et François Chêne.
Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord citer le poète Jean Cocteau, reçu ici en octobre 1955, à cette même date où j'entrais à l'École normale supérieure à Paris, ce dont se souviennent deux ou trois de mes condisciples et amis présents aujourd'hui parmi nous. Jean Cocteau donc, avec la grâce et le charme désinvolte que conservent ses écrits et ses images, disait dans l'introduction de son discours « Il faudra que j'évite de m'endimancher en parole. Ce vers quoi nous pousse inconsciemment un lieu historique. » M'endimancher à mon tour, le risque pour moi est plus grand. Je n'ai ni le charme ni le brio de Jean Cocteau, fêté tout au long de sa vie dans les sociétés les plus distinguées et les publics les plus divers. Du moins, ces premiers mots du poète de plein chant, prononcés en cette même salle, me viennent à l'esprit pour vous exprimer mes remerciements de m'avoir accepté dans votre compagnie. Cette voix de Cocteau intervenant comme celle d'un souffleur de théâtre me permet de dominer quelque peu la raideur de ma timidité devant vous. Car ces lieux sont hantés par la présence impalpable de ceux qui, durant presque 4 siècles, se sont succédés dans un labeur continu sur la langue française, portés là par leur œuvre de nature scientifique, imaginative, poétique ou juridique. Dans ce peuple de présents absents, qu'on appelle donc immortel, je choisis en second ange gardien Denis Diderot, qui ne fut pas comme Voltaire académicien, mais dont le fantôme me sera, je le sens, ombre gardienne. Il m'a semblé, écrit le philosophe en 1751, qu'il fallait être à la fois au dehors et au dedans. Diderot définit ainsi sa démarche, tandis qu'il termine sa lettre sur les sourds et muets. Je lui emprunte cette perspective d'approche, me plaçant donc à la fois au dehors et au dedans, pour faire l'éloge, selon l'usage, de mon prédécesseur au fauteuil numéro 5, le doyen Georges Vedel. Revenons sur la carrière du professeur Georges Vedel. Cet homme du Sud-Ouest, né en 1910 à Auch, mais originaire de Mazamet, et petit-fils du côté paternel d'un gendarme qui n'eut pas tellement d'avancement parce que, selon le doyen, il était trop bon pour sévir. Par contre, du côté maternel, le grand-père circulait, lui, entre les deux départements de l'Aude et du Tarn en contrebandier, faisant passer les outres de vin sans payer les droits de péage, cela sous le règne de Louis-Philippe. Voici cet enfant, placé presque symboliquement dès l'origine, de part et d'autre du droit, Diderot dirait à la fois au dehors et au dedans. Avec des racines si authentiquement populaires, qui impliquent aussi le double parler, la langue du grand poète Frédéric Mistral, langue d'oc, l'on disait le patois, encore palpitante sous le français, apprise à l'école de la Troisième République, l'ascension sociale se continue sur trois générations. Le père de Georges Vedel entra à l'école des sous-officiers, gravit des échelons, il fera la guerre de 14-18 et finira comme colonel. Le fils sera élevé après la Grande Guerre au gré des garnisons paternelles. Il fera de sérieuses études secondaires, mais supportant mal la vie d'internat, après le baccalauréat, bien qu'il penchât un moment pour la philosophie, pour éviter de retrouver justement la pension, il choisit de s'inscrire en droit à Toulouse, sans renoncer, au début du moins, à la philosophie. Finalement, le droit l'emporta, en lui comme vocation. Peut-être aussi grâce à la qualité de la tradition juridique à Toulouse, celle-ci dominée par la figure tutélaire du doyen Horioux, dont Georges Vedel suivit les derniers cours. Le professeur Didier Mauss, président de l'Association française des constitutionnalistes, pour souligner les origines familiales de Monsieur le Doyen, caractérisées, disait-il, par, je le cite, « le goût d'indépendance des hommes et des femmes de ces régions », ajoutait « ce passé occitan ancre Georges Vedel dans la continuité ». Il termina l'éloge funèbre du maître en ces termes « les plus jeunes de ceux qui nous écoutent pourront dire, oui, en 2002, il y avait quelqu'un, entendez M. Vedel, qui avait connu le doyen Horioux. C'est ainsi, conclut-il, que nos mémoires se construisent et se transmettent. Quant au professeur Pierre Delvolvé, sans doute le plus proche disciple, après avoir insisté sur toutes les parties du droit où Georges Vedel a excellé, droit public français, droit civil, droit international public et pour finir, le droit communautaire pour la rédaction des traités de Rome, de l'Europe d'aujourd'hui. Pierre Delvolvé, donc, résuma la richesse de cette biographie par cette formule « Georges Vedel a ainsi fait monter à Paris l'école de Toulouse ». Je ne saurais, hélas, à cause de mon incompétence juridique, retracer, moi, l'apport décisif de Georges Vedel dans toutes les matières du droit. Certes, les manuels du doyen Vedel ont nourri, nourrissent encore la mémoire de générations d'étudiants, futurs juristes. Il me serait difficile d'entrer dans les arcanes de ce savoir, moi qui, en fait, de connaissances dans ce domaine, ne garde trace que de mes lectures de l'esprit des lois de Montesquieu et du contrat social de Jean-Jacques Rousseau, texte qui relève plutôt de la philosophie du droit ou tout simplement de la littérature. Mais, parcourant les entretiens auxquels Georges Vedel avait accepté de participer, peu à peu, j'ai commencé à entendre sa voix, à sentir sa présence. Puisque auteur de narration, j'ai le seul petit pouvoir, j'allais dire le métier au sens artisanal, de tenter de rendre proche, je n'ose dire de ressusciter, l'être qui n'est plus. Je choisis, à travers quelques scènes de sa vie, de me placer derrière son ombre, de me glisser tout près, de tenter de le ramener vers vous, excusez-moi, comme personnage, comme caractère, dirait-on en anglais. L'époux, le père, Le grand-père évoqué par ses très proches, Madame Vedel en premier, ainsi que l'une de ses filles. Je les ai écoutées longuement et silencieuses, car, insensiblement, la vibration même de cette parole des très proches, nouée pourtant par le vif de la perte, tournant et se retournant dans le souvenir, vous ramène peu à peu l'absent, autant peut-être plus intimement que les hommages publics et les témoignages d'éloquence admirative. Car il s'agit ici, sinon de rendre présent un être cher à ses proches, à ses disciples, du moins de m'approcher au plus près de l'absent, faire affleurer son image, qui pourrait, par éclair furtif, nous émouvoir. Me sont revenus quelques mots, un seul vers du poème, sans nul doute, le plus grand du Moyen-Âge européen, je veux dire la Divine Comédie, et ces mots tirés du chant 21 du Paradis nous conseillent comment nous aider à créer, même pour une seconde, l'illusion de la présence aimée. Oui, quelques mots de Dante. Mets ton esprit là où sont tes yeux. Fica diretro agli occhi tuoi la mente. Suspendons notre souffle. C'est la voix même de Béatrice dont n'a jamais pu se consoler le poète exilé de Florence. Béatrice donc qui lui parle à chaque étape du voyage astral de ce vaisseau imaginaire, puisque nous sommes au paradis. Rappelons-nous l'élan poétique de cette extraordinaire aventure. Dante, tel un astronaute de notre temps, part trois fois à bord d'un ciel de lune, puis successivement 17 cieux d'astres différents, ainsi jusqu'à ce champ 21 où il bénéficie de l'ultime apparition de Béatrice. Je répète le vers prononcé par elle, l'aimé, qui va disparaître à jamais, juste après avoir annoncé « Nous sommes arrivés à la septième splendeur ». D'où ce conseil adressé au poète, ces mots entre splendeur et absence sereine. Elle les murmure en image d'intercession bienfaisante et de tendresse. « Mets ton esprit là où sont tes yeux ». Dans la vision de Dante, le miracle de pouvoir rendre présent, dans un éclair d'une seconde, tout disparu, survient lorsque ce dernier, et revenons malgré ce détour à mon regretté prédécesseur, paraît plus précieux aux siens que le soleil lui-même. Dans cette irréversibilité de la perte, c'est le seul pouvoir de poésie, sa magie de l'émotion communicative. Ainsi, cette tension de la mémoire affective pour nous faire revenir Georges Vedel au cœur de cette absence, à retourner, à inverser en présence de l'esprit sinon des yeux, présence dense, mettant en mouvement l'imago. Parole bouleversante parce que bouleversée, qui tente de combler le passé qui ne passe pas. En cet effort de liturgie, le disparu, en une lueur, vous revient. Louez soit l'effort de ceux qu'il a aimés, qui l'ont aimé, qui le tirent jusqu'à vous, jusqu'à nous, précautionneusement, sans ménager leur propre chagrin qui, en effet, sera vif. Oui, monsieur le doyen nous revient donc, grâce à l'affection des siens qui cherchent consolation, de ses disciples qui, dans l'absence, gardent mémoire de sa rigueur, de la subtilité de ses commentaires, de son influence restée prégnante en eux. Et pour moi qui les écoutais, la vivacité de leurs souvenirs le rapproche de nous. Cette filialité et cette fidélité, l'une et l'autre agissante, nous le restituent. Jusqu'à la voix que je pourrais entendre, moi qui ne l'ai jamais approchée, moi qui me suis demandé si cette voix avait un accent, je veux dire un accent de son sud-ouest natal. Le concret, en somme, de la tradition, son oralité. Aussi me demandais-je, selon quel rite archaïque de mon pays, pourrais-je jeter à mon tour quelques grains de sable ou de blé, quelques feuilles de laurier ou de pétales de jasmin dans l'eau revivissante de la mémoire des élèves et des amis de combat. Quant à ce mot de combat, évoquez plutôt le labeur de patient échafaudage que représenta pour Georges Vedel, par exemple, pendant de longues années, l'élaboration de la Charte de l'Europe, dont il fut l'un des artisans. De même, j'écoutais le récit fait par l'un de ses compagnons d'un voyage en Amérique centrale, le professeur Guy Carcassonne, me narrant, m'expliquant, puis soudain souriant en se remémorant une escale de nuit à Cuba. Pourquoi Cuba ? Vous avez deviné, pour visiter même tard une des haciendas la plus fameuse où monsieur le doyen put faire provision des meilleurs cigares du monde. Ce péché du maître étant connu de ses proches. Descendant du Concorde qu'ils avaient pris tous deux en mars 1998 pour se rendre d'abord au Costa Rica, où Georges Vedel recevait un doctorat honoris causa, au retour, grâce à une escale de nuit improvisée, il leur fut possible par chance de visiter une ou deux des plantations de tabac de Cuba. « Nous voici à La Havane », se souvient Guy Carcassonne, « en pleine nuit, pas très loin de l'aéroport, pénétrant dans la plantation la plus importante, où le maître des lieux nous reçoit, un vieux monsieur fort sympathique. Notre guide, lui-même impressionné, me murmure qu'il s'agit d'une gloire chez tous les fumeurs de cigares, dont Jandro de Rubaina en personne, lui dont les cigares sont les plus renommés dans le monde. » Notre hôte est courtois. Il me demande l'identité de mon compagnon, tandis que commence la dégustation. Eh bien, mon ami et confrère que voici, lui affirmai-je, c'est Monsieur Guy Carcassonne qui parle, sûr de dire la vérité, mon ami et confrère que voici est le Robaina du droit. Ils conversèrent longuement, curieux l'un de l'autre, et monsieur le doyen reprit l'avion revigoré par la rencontre et par sa provision de cigares, bien sûr. Cette scène nocturne évoquée, me voici à imaginer ces deux maîtres du même âge, le français et le cubain, au sommet chacun de son art respectif, dégustant de concert les cigares les plus fameux du monde, en cette occasion, Georges Vedel dialoguait en espagnol avec Don Jandro de Robaina, le maître des lieux. En espagnol, puisque Georges Vedel, prisonnier de guerre à partir de 1939, durant ses 5 années de captivité, avait, entre autres activités, appris la langue espagnole. Reculons dans le passé de Monsieur le Doyen. Je tente de fixer au vol les images que le doyen lui-même a fait lever en moi par ses réponses au journaliste Marc Ridley. « À 10 ans, j'occupe l'Allemagne », dit-il, tout de go et avec humeur. Pardon, et avec humour. Comprenez qu'en 1920, le père de notre héros fait partie du corps d'armée française qui occupe en effet l'Allemagne vaincue. Son garçon de 10 ans poursuit sa scolarité au lycée français de Mayens. Bien des années plus tard, se remémore le doyen, je me suis rappelé une scène qui, au moment de l'occupation de la Roure, m'avait frappé sans que je la comprenne. En effet, en janvier 1923, les troupes françaises et belges, avec l'accord des autres alliés, occupent sur la rive droite du Rhin les usines métallurgiques de Krupp et de Thyssen qui tardaient à payer la dette de guerre trop lourde. Décision catastrophique qui va retourner la classe ouvrière allemande, pourtant l'une des plus politisées alors, vers une réaction de solidarité nationaliste avec ses patrons. Imposante manifestation donc à Mayence, chef-lieu de l'occupation des Alliés de 1918, que fixe par un détail inoubliable la mémoire du garçonnet Vedel. Imaginez, se souvient-il, l'ahurissement d'un enfant de 12 ou 13 ans qui, de son balcon, entend des Allemands chanter la Marseillaise comme chant révolutionnaire et cela comme défi aux Français. Le garçon à Mayence, du haut de son balcon, en témoin oculaire, ajoute même qu'alors, des spahis marocains reçurent l'ordre de disperser la manifestation des ouvriers allemands qui venaient au secours de leur patron. Georges Vedel, donc, longtemps après, fera ce commentaire quelque peu amer, pur chef-d'œuvre politique, qu'Ubu n'aurait pas renié. J'entends la voix du doyen s'attrister. Comme nous, il se souvient qu'à cette occasion, on entendit parler d'un certain Hitler avec son mouvement d'extrême droite naissant, même si peu après, le sinistre agitateur est arrêté pour un court moment. Je note cet instant où le garçonnet de 12-13 ans est témoin à partir de son balcon. L'image ici est nullement métaphorique. Oui, vraiment, au balcon précisément de l'histoire, car cette journée devient prémisse de la tragédie européenne qui va suivre. Mais si soudain je jonglais avec les dates de cette vie exemplaire, sautons pour l'instant le cursus scolaire du garçon devenu lycéen à Toulouse, puis étudiant en droit, puis professeur agrégé, enjambons même le deuxième séjour de notre héros en Allemagne, les 5 ans de captivité à l'Auflag 18, sur lequel, bien sûr, je reviendrai. Avançons plus loin encore, dans le temps à venir, du garçonnet de 1923. Arrivons, n'hésitons pas, en 1957, c'est-à-dire 34 ans plus tard. À Bruxelles, nous, lorsque dans la délégation française présidée par le ministre Maurice Faure, Georges Vedel est, à 47 ans, le juriste chargé de rédiger les articles du traité de l'Euratom, traité qui, dans une Europe qu'on désire nouvelle et solidaire, permettrait de lui garantir une indépendance de l'énergie par rapport aux USA. 6 articles sont écrits d'une façon tellement technique qu'ils pourraient, au dernier moment, entraîner un refus du vieux chancelier Adenauer. Or, il est important, même urgent, du moins pour le gouvernement français d'alors, que ce traité soit ratifié. Se déroule en coulisses une scène qui aura son importance pour le traité de Rome, qui doit suivre. Le suspense commence lorsque Guy Mollet lui-même, alors chef de gouvernement, traîne, c'est l'expression de celui qui évoque ce passé. Oui, traîne Georges Vedel, le juriste rédacteur des articles, devant le chancelier Adenauer qui hésite à signer. Guy Mollet présente au vieux Adenauer le juriste Vedel qui a rédigé les 6 articles auxquels personne ne comprend rien, sauf les juristes. Georges Vedel, en allemand, résume son texte d'une façon si convaincante que le vieux chancelier retrouve confiance. Dans ses allées et venues de la mémoire, Georges Vedel commentera, cette fois à la veille d'être élu à l'Académie en 1997, « Je pensais qu'il était plus sérieux de faire la communauté économique européenne et cet Euratom auquel je m'étais attachée parce qu'il était riche en problèmes juridiques. » Monsieur le doyen, qui est une mine de souvenirs de même importance, où il est à la fois acteur, négociateur et témoin pour l'histoire, ajoute d'ailleurs cette remarque si précieuse pour nous, Maurice Faure a souvent dit que si cette négociation de l'Euratom a pu se faire, c'était en partie parce que la guerre d'Algérie occupait beaucoup les esprits. Mais faisons revivre Georges Vedel, à peine quadragénaire, en ces années 1950, alors que pour sa capacité à trouver forme à cette nouvelle donne internationale, il jouit de la confiance des chefs d'État de premier plan. Son rôle fut donc décisif dans le rapprochement franco-allemand qui se noue dans cette décennie. Se rappelant peut-être le petit garçon de 1923, il soupirera, je le cite, « L'interminable match France-Allemagne ne pouvait se perpétuer à jamais de guerre en guerre. » Et toujours en 1997, presque au soir de sa vie, il conclura « L'idée de répéter les âneries qui avaient provoqué le déchirement de l'Europe nous était étrangère. Nous pensions même le contraire. » Excusez-moi, mesdames et messieurs, cet embardé dans la vie de monsieur le doyen. Mon voyage védélien, parti de 1923, a sauté 34 ans d'un coup jusqu'en 57. Je n'ai pu ensuite m'empêcher de citer ses jugements plus tard, à la veille de son élection à l'Académie. Ces allées et venues que j'opère, dans un apparent désordre, me font sentir combien, durant son parcours de vie, l'enfance, les études, l'expérience de la guerre et des camps, le professeur est resté sensible à l'équilibre si fragile entre le passé collectif qui résiste et les formes nouvelles, quelquefois informes, mais préfigurant l'avenir de l'Europe. Quand, par exemple, il anima avec des amis, en 1967, le club Jean Moulin, son instinct de juriste hors pair était soutenu par une intelligence aiguë des poussées du changement qui, même avec retard, advient. Pour ma part, il est vrai, m'a frappé son œuvre de juriste, je dirais de grand sage, dans la naissance d'une Europe nouvelle. Sa pensée du droit, expérimentée sur des décennies, lui a fait saisir au plus près les mouvements d'un secret balancier qui tente d'équilibrer stabilité et progrès d'une Europe cicatrisée, dont il me paraît être l'un des horlogers invisibles. M'a touché son expérience de ce problème si tenace, l'âme de fond et de longue durée, disons de longue patience ou même de longue souffrance, de ce que M. Vedel appelle l'interminable match France-Allemagne. Aussi reviendrai-je sur son arrestation de 1939, puis sur son expérience de la captivité qu'il vécut 5 années durant. La guerre, se souvient-il, toujours face à Marc Ridley ? Il est difficile de se rendre compte de l'état de stupeur dans lequel la défaite nous a plongés. Il souligne « Ce que l'on a presque tout à fait oublié, dit-il, les 100 000 morts français de la campagne de 1939 ». Il rappelle, je le cite, « ces jours de détresse et de dégoût ». Son expression est toute secouée par une colère stupéfaite encore de jeune homme, car en 1939, il s'est indigné. Cela, 21 ans seulement, après la victoire si chèrement acquise des Alliés de 1918. En 1939 donc, lieutenant dans l'Est de la France, il se retrouve encerclé avec l'état-major de la 5e armée. L'ordre est transmis aux officiers de tenter de gagner, en ordre dispersé, la frontière suisse. 3 d'entre eux avancent au hasard dans la forêt vosgienne en pleine nuit. Le premier, Vedel, bute contre un obstacle et tombe. C'est sur un soldat allemand. Je le laisse se souvenir. « Je suis capturé », se souvient-il, « par l'unité allemande dont je suis le premier prisonnier en tant qu'officier. » Je suis envoyé dans un oflag où je dois dire et respecter la Convention de Genève. Dans le troisième de ces camps, nous souffrirons certes du froid, de la mauvaise nourriture, mais nous pourrons recevoir des colis une fois par mois et même des livres ensuite. En août 1940, il est transféré en Autriche à l'oflag 18 où sont regroupés plusieurs autres professeurs de droit, d'histoire, de lettres, etc. Tous ensemble, organise une université. Il redevient donc professeur de droit durant les 5 ans qui suivront, mais aussi étudiant, car il apprend l'espagnol ainsi que la théologie de saint Paul. Georges Vedel juge ces années de prisonnier extrêmement fécondes. Malgré les conditions plus qu'ascétiques du quotidien, il y noue des amitiés nouvelles et durables. En 1945, lorsque les Russes libèrent ce camp non loin de Vienne, les officiers français sont remis aux Américains, à l'aérodrome de Linz. Là a lieu un choc en lui. Une horreur indicible saisit ces Français libérés lorsqu'ils rencontrent d'autres déportés, mais dans quel état ? Des êtres squelettiques sortent, ou plutôt titubent, hors du camp de Mauthausen, qui ne se trouvait qu'à seulement 60 kilomètres du leur. « Hélas !» s'exclame M. Vedel, « un troupeau de torturés, de quasi-morts, nous apparaît. » Ce fut un bouleversement de tout son être. Ni lui, ni ses camarades de captivité, tandis qu'ils font face à cette vision de cauchemar, n'auraient pu imaginer, et si près d'eux, je le cite, « un tel enfer de torture, de famine, de mort ». « Un monde sans droit, dit-il, où l'homme est traité plus mal qu'une bête. » Sa réaction dans le train qui le ramène à Paris est d'une force qu'il n'oubliera jamais. « Il me semble, se souvient-il, que j'ai commencé à croire vraiment au droit à ce moment-là. » L'horreur qu'il ressent les jours suivants se prolongera, car dans ce train de retour, les déportés de Mauthausen continuent de mourir. Par cette vision de ce qu'avait pu être aussi la guerre, il restera marqué, hanté par la proximité d'un « monde sans droit », c'est son expression, une barbarie au cœur même de l'Europe. « J'ai compris, conclut-il, que le droit » même rudimentaire, même rugueux, est l'une des frontières entre l'homme et la bête. Auparavant, il était un brillant agrégé de droit, en train de réussir sa vie de professeur d'université. Après 1945, le droit n'est plus seulement une carrière, un métier, mais une vocation qui l'habite, dont les questionnements ne laisseront plus jamais son esprit en repos. Georges Vedel, donc, grand maître du droit. Comme professeur, depuis 1936, presque tout le long du siècle passé, à la faculté de droit, à Sciences Po, dans de multiples universités étrangères, y compris celles des 3 pays du Maghreb. Ses cours, nous dit-on, étaient un modèle de clarté et de rigueur, avec toujours des notes d'humour. Comme auteur, c'est surtout en droit constitutionnel et en droit administratif qu'il innova. Ainsi, par exemple, son manuel datant de 1949, réimprimé en 1984, reste indispensable pour comprendre les transitions constitutionnelles de la IIIe à la IVe République. Au Conseil constitutionnel, enfin, son entrée en 1980 fut sa consécration. Il se trouva que, les 9 années suivantes, la France eut 2 présidents de la République et 3 élections législatives. L'alternance engendra une activité intense, nous dit Robert Badinter, qui rejoignit le doyen à cette haute instance. Et M. Badinter de conclure, une vision d'ensemble guidait la démarche du doyen. Elle donnait à ses écrits et à ses propos une unité et une densité incomparables. Pour ma part, ayant trop vite survolé cette vie si riche et ce trajet exemplaire, je me permets de revenir au choc que l'homme Georges Vedel reçut à l'aérodrome de Linz et qui ébranla définitivement sa sensibilité, qui a donné plus de profondeur à sa conscience de citoyen. Certes, par le hasard de la vie, il a été lié d'amitié avec Maurice Faure, très jeune parlementaire. Celui-ci, ministre en 1956, chargé de la négociation européenne, fait appel à Monsieur le Doyen comme conseiller juridique pour les accords à élaborer, qu'il faudra soumettre aux différents partenaires d'une Europe réconciliée. Peut-être, toute proportion gardée. Pourrait-on revenir à l'origine de la première Europe, des célèbres serments de Strasbourg en 842, lorsque, parmi les petits-fils de Charlemagne, deux frères cadets font la paix, chacun dans la langue de l'autre, et ils partagent l'héritage paternel, certes, mais pour se renforcer aussi contre le frère aîné, le troisième héritier. Ce schéma, on pourrait dire qu'il fonctionne à nouveau au milieu des années 1950. Vaincu et vainqueur de l'Europe, surgissant une nouvelle fois de ses ruines, élabore des fondations autres pour une Europe à régénérer. Il se réconcilie certes, mais pour contrebalancer aussi le bloc des pays de l'Est, et cela jusqu'à la chute du mur de Berlin en 1989. Dans ce cadre, un peu comme un expert de la mécanique européenne, Georges Vedel joua donc un rôle décisif à Bruxelles. La force qu'il habitera, je l'appellerai son éthique du droit contre le domaine du non-droit, elle lui vint aussi de sa confrontation vécue avec les craquements tragiques d'une toute récente histoire européenne. Il y a une autre histoire, mesdames et messieurs, et consécutive à celle-ci. Permettez-moi de l'évoquer à présent. La France, sur plus d'un demi-siècle, a affronté le mouvement irréversible et mondial de décolonisation des peuples. Il fut vécu sur ma terre natale, en lourd passif de vie humaine écrasée, de sacrifices privés et publics innombrables et douloureux, cela sur les deux versants de ce déchirement. Il s'agissait aussi d'une confrontation plus large de l'Europe avec tout le tiers-monde. Aux philosophes de l'histoire de mesurer pourquoi les deux dernières guerres mondiales ont pris racine sans doute dans le fait que l'Allemagne, puissance réunifiée en 1870, fut écartée du dépeçage colonial de l'Afrique au XIXe siècle. L'Afrique du Nord, du temps de l'Empire français, comme le reste de l'Afrique de la part de ses coloniaux anglais, portugais ou belges, a subi un siècle et demi durant dépossession de ses richesses naturelles, déstructuration de ses assises sociales et pour l'Algérie, exclusion dans l'enseignement de ses deux langues identitaires, le berbère séculaire et la langue arabe, dont la qualité poétique ne pouvait alors pour moi être perçue que dans les versets coraniques qui me restent chers. Mesdames et messieurs, le colonialisme vécu au jour le jour par nos ancêtres, sur quatre générations au moins, a été une immense plaie. Une plaie dont certains ont rouvert récemment la mémoire, trop légèrement et par dérisoire calcul électoraliste. En 1950 déjà, dans son discours sur le colonialisme, le grand poète Aimé Césaire avait montré, avec le souffle puissant de sa parole, comment les guerres coloniales en Afrique et en Asie ont en fait décivilisé et ensauvagé, dit-il, l'Europe. En pleine guerre d'Algérie pour ma part. Par contre, j'ai bénéficié de chaleureux dialogues avec de grands maîtres des années 50. Louis Massignon, islamologue de rare qualité pour mes recherches alors en mystique féminine du Moyen-Âge. L'historien Charles-André Julien, qui fut mon doyen à l'université de Rabat autour de 1960. Enfin, le sociologue et arabisant Jacques Berck, qui me réconfortait, hélas, juste avant sa mort, en pleine violence islamiste de la décennie passée contre les intellectuels en Algérie. J'ajouterai à cette liste le discret ami d'autrefois, Gaston Bounour, qui d'Égypte, venant finir sa carrière de professeur au Maroc, était l'un des rares à m'encourager dans mes débuts de romancière. De même, un peu plus tard, le poète Pierre Emmanuel, qui siégea parmi vous. Je terminerai surtout avec deux femmes qui m'avaient communiqué auparavant la force d'être ce que je suis, c'est-à-dire un auteur d'écriture française. L'une, Madame Blasi, au collège de Blida. Par sa simple lecture des poèmes de Baudelaire, j'avais 11 ans. L'autre, à Paris, le professeur Dina Dreyfus, dont l'enseignement de Descartes et de Kant me transmit un peu plus de rigueur, j'en avais 19. Je voudrais ajouter également, en songeant aux si nombreuses Algériennes qui se sont battues et se battent aujourd'hui pour leurs droits de citoyennes, ma reconnaissance pour Germaine Tillon, devancière de nous toutes, par ses travaux dans les Aurès déjà dans les années 30, par son action de dialogue en pleine bataille d'Alger en 1957, également pour son livre « Le harem et les cousins » qui, dans les années 60, nous devint livre phare, œuvre de lucidité plus que de polémique. Comme Georges Vedel, je me destinais à la philosophie. Passionnée étais-je à 20 ans par la stature d'Averroès, cet Ibn Rushd andalou de génie dont l'audace de la pensée a revivifié l'héritage occidental. Mais alors que j'avais appris au collège l'anglais, le latin et le grec, comme je demandais en vain à perfectionner mon arabe classique, j'ai dû restreindre mon ambition en me résignant à devenir historienne. En ce sens, le monolinguisme français, institué en Algérie coloniale, tendant à dévaluer nos langues maternelles, nous poussa encore davantage à la quête des origines. Ainsi, dirais-je, s'aviva mon désir ardent de langue, une langue en mouvement, une langue rythmée par moi pour me dire, ou pour dire que je ne savais pas me dire, sinon, hélas, dans parfois la blessure, sinon dans l'entrebâillement entre deux, non, entre trois langues, et dans ce triangle irrégulier, sur des niveaux d'intensité ou de précision différents, trouver mon centre d'équilibre ou de tangage, pour poser mon écriture, la stabiliser ou risquer, au contraire, son envol. La langue française, la vôtre, mesdames et messieurs, devenue la mienne, tout au moins en écriture, le français, donc, est lieu de creusement de mon travail, espace de ma méditation ou de ma rêverie, cible de mon utopie, peut-être, je dirais même tempo de ma respiration au jour le jour, ce que je voudrais esquisser en cet instant où je demeure, silhouette dressée sur votre seuil. Je me souviens l'an dernier, en juin 2005, le jour où vous m'avez élue à votre académie. Aux journalistes qui têtaient ma réaction, j'avais répondu que j'étais contente pour la francophonie du Maghreb. La sobriété s'imposait, car m'avait saisi la sensation presque physique que vos portes ne s'ouvraient pas pour moi seule, ni pour mes seuls livres, mais pour les ombres encore vives de mes confrères, écrivains, journalistes, intellectuels, femmes et hommes d'Algérie qui, dans la décennie 90, ont payé de leur vie le fait d'écrire, d'exposer leurs idées ou tout simplement d'enseigner en langue française. Depuis, grâce à Dieu, mon pays cautérise peu à peu ses blessures. Il serait utile peut-être de rappeler que dans mon enfance en Algérie coloniale, on me disait alors française musulmane, alors que l'on nous enseignait nos ancêtres les Gaulois, à cette époque justement des Gaulois, l'Afrique du Nord, où on l'appelait aussi la Numidie, ma terre ancestrale avait déjà une littérature écrite de haute qualité, de langue latine. J'évoquerai trois grands noms. Apulée de Mador, dans l'Est algérien, né en 125, étudiant à Carthage puis à Athènes, écrivant en latin, conférencier brillant en grec, auteur d'une œuvre littéraire abondante, dont le chef-d'œuvre, L'Âne d'or ou Les Métamorphoses, est un roman picaresque dont la verve, la liberté et le rire iconoclaste conservent une modernité étonnante. Quelle révolution ce serait de le traduire en arabe populaire ou littéraire, qu'importe, certainement comme vaccin salutaire à inoculer contre les intégrismes de tous bords d'aujourd'hui. Quant à Tertullien, né païen à Carthage en 155 après Jésus-Christ, qui se convertit ensuite au christianisme, il est l'auteur d'une trentaine d'ouvrages, dont son apologétique, toutes de rigueur puritaine. Il suffit de citer deux ou trois de ces phrases qui, surgies de ce deuxième siècle chrétien et latin, sembleraient soudain paroles de quelques tribuns misogynes et intolérants d'Afrique. Par exemple, extraite de son opus « Du voile des vierges », cette affirmation « Toute vierge qui se montre, écrit Tertullien, subit une sorte de prostitution. » Et plus loin, « Depuis que vous avez découvert la tête de cette fille, elle n'est plus vierge tout entière à ses propres yeux. » Oui, traduisons-le vite en langue arabe pour nous prouver à nous-mêmes au moins que l'obsession misogyne qui choisit toujours le corps féminin comme enjeu n'est pas spécialité seulement islamiste. En plein IVe siècle, de nouveau, dans l'Est algérien, naît le plus grand Africain de cette antiquité, sans doute de toute notre littérature, Augustin, né de parents berbères latinisés. Inutile de détailler le trajet si connu de ce père de l'Église. L'influence de sa mère, Monique, qui le suit de Carthage jusqu'à Milan, ses succès intellectuels mondains, puis la scène du jardin qui entraîne sa conversion, son retour à la maison paternelle de Tagaste, ses débuts d'évêque à Hippone, enfin, son long combat d'au moins deux décennies contre les donatistes, ces berbères christianisés, mais âprement raidis dans leur dissidence. Après 20 ans de lutte contre ces derniers, eux qui seraient les intégristes chrétiens de son temps, étant plus en contact, certes, avec leurs ouailles parlant berbère, Augustin donc croit les vaincre. Justement, il s'imagine le faire en 418 à Césarée de Maurétanie, la ville de ma famille et d'une partie de mon enfance. Il se trompe. 13 ans plus tard, il meurt en 431 dans Hippone, assiégé par les Vandales arrivés d'Espagne et qui, sur ses rivages, viennent de presque tout détruire en une seule année. Ainsi, ces grands auteurs font partie de notre patrimoine. Ils devraient être étudiés dans les lycées du Maghreb, en priorité, en langue originale ou en traduction française et arabe. Rappelons que pendant des siècles ensuite, ce fut une autre langue, la langue de l'autre, en l'occurrence la langue arabe, qui a accompagné la circulation du latin et du grec en Occident jusqu'à la fin du Moyen-Âge, mais qui surtout nous a donné de grands auteurs. Je ne citerai très rapidement que Ibn Battuta, le voyageur né à Tanger, Ibn Rushd, certes andalou, le philosophe commentant Aristote pour réfuter Al-Razali, enfin, le plus grand mystique de l'Occident musulman, Ibn Arabi, voyageant constamment de Bougie à Tunis, puis à Fès, puis à Cordoue, etc. La langue arabe était alors véhicule également du savoir scientifique, médecine, astronomie, mathématiques, etc. Ainsi, donc, c'est vraiment dans la langue de l'autre une seconde fois, car les Bédouins d'Arabie ont islamisé les Berbères pour conquérir avec eux l'Espagne, que mes ancêtres africains vont écrire et inventer. Le dernier d'entre eux, figure de modernité marquant la rupture, Ibn Khaldoun, né à Tunis, écrit son histoire des Berbères en Algérie au milieu du XIVe siècle. Il finira sa vie en 1406 en Orient, comme presque deux siècles auparavant Ibn Arabi. Pour ces deux génies, le mystique andalou et le sceptique inventeur de la sociologie, la langue d'écriture semble les transporter, eux, en citoyens du monde qui préfèrent s'exiler de leur terre plutôt que de leur écriture. À quoi me sert aujourd'hui ma langue française? Je me pose presque ingénument la question. Dès l'âge de 20 ans, j'avais choisi d'enseigner en université l'histoire du Maghreb. Comme le doyen Vedel, j'aime de cette profession l'indépendance intellectuelle qu'elle assure, ainsi que les contacts avec de jeunes esprits. Je n'ai fait, après tout, que prolonger l'activité de mon père, qui, instituteur dans les années 30, en pleine montagne algérienne, seul dans une école où ne parvenait même pas la route, scolarisait en français des garçonnets, mais il y ajoutait aussi des cours d'adultes pour des montagnards de son âge, auxquels il assurait une formation accélérée en français et permettre à leur famille de bénéficier ainsi de ressources régulières, plus régulières. Dès l'âge de mes 15 ans, j'ai adhéré à une conception fervente de la littérature. J'écris pour me parcourir, disait le poète Henri Michaux. J'ai adopté en silence cette devise. L'écriture m'est devenue activité souvent nocturne, en tout cas permanente, une quête presque à perdre souffle. J'écris par passion d'ijtihad, c'est-à-dire de recherche tendue vers quoi? Vers soi d'abord. Je m'interroge comme qui, peut-être après tout comme le héros métamorphosé d'Apulée qui voyage en Thessalie, sauf que je ne veux retenir de ce prétentieux rapprochement que la mobilité des vagabondages de ce Lucius, double de l'auteur, mon compatriote de 19 siècles auparavant. Est-ce que, me diriez-vous, vous écrivez vous aussi métamorphosé ? Masqué, et ce masque que pourtant vous ne cherchez pas à arracher serait la langue française. Depuis des décennies, cette langue ne m'est plus langue de l'autre, presque une seconde peau ou une langue infiltrée en vous-même, son battement contre votre pouls ou tout près de votre artère aorte, peut-être aussi cernant votre cheville en noeud coulant, rythmant votre marche, car j'écris et je marche presque chaque jour dans Soho ou même sur le pont de Brooklyn. Je ne me sens alors que regard dans l'immensité d'une essence au monde. Mon français devient l'énergie qui me reste pour boire l'espace, bleu, gris, tout le ciel. J'aurais pu être, à la fin des années 1970, à la fois cinéaste de langue arabe, en même temps que romancière francophone. Malgré mes deux longs métrages salués à Venise et à Berlin, si j'avais persisté à me battre contre la misogynie des tenants du cinéma d'État de mon pays, avec sa caricature Saint-Sulpicienne du passé ou ses images d'un populisme attristant, j'aurais été asphyxiée comme l'ont été plusieurs cinéastes qui avaient été sérieusement formés auparavant. Cette stérilité des structures annonçait en fait, en Algérie, la lame de fond de l'intolérance et de la violence de la décennie 90. J'aurais donc risqué de vivre sourde et aveugle, en quelque sorte, parce qu'interdite de création audiovisuelle. Mais de mes repérages, pour quêter la mémoire des paysannes dans les montagnes du Dahra, en langue arabe, ou parfois avec le berbère fusant au souvenir des douleurs écorchées. J'ai reçu une commotion définitive, un ressourcement, je dirais même une leçon éthique et esthétique de la part des femmes de tous âges de ma tribu maternelle. Elles se ressouvenant de leur vécu de la guerre d'Algérie, mais aussi évoquant leur quotidien. Leurs paroles se libéraient avec des images surprenantes, des mini-récits amers ou drôles, laissant toujours affluer une foi âpre et sereine, comme une source qui lave et efface les rancunes. Réapprenant à voir, désirant transmettre dans une forme presque virgilienne, ce réel, j'ai retrouvé une unité intérieure grâce à cette parole préservée de mes sœurs, à leur pudeur qui ne se sait pas, si bien que le son d'origine s'est mis à fermenter au cœur même du français de mon écriture. Ainsi armée ou réconciliée, j'ai pris tout à fait le large. Or là-bas, sur cette rive sud que j'ai quittée, qui regarde désormais, sinon chaque femme qui n'avait pas autrefois droit de regard, à peine de marcher en baissant les yeux, en s'enveloppant face, front et corps tout entier de linges divers, de laine, de soie, de caftan, corps mobile qui, alors que la scolarisation des filles de tous âges s'impose dans les moindres hameaux, semble pourtant encore sous contrôle. La jeune femme architecte dans la Nouba des femmes du Montchenois revient dans sa région d'enfance, son regard posé sur les paysannes quête l'échange de paroles, leurs conversations s'entrelacent. Est-ce par hasard que la plupart des œuvres de femmes au cinéma apportent au son, à la musique, au timbre des voix prises et surprises, un relief aussi prégnant que l'image elle-même? Comme s'il fallait s'approcher lentement de l'écran, le peupler, mais porté par une voix pleine, dure comme une pierre, fragile et riche comme un cœur humain. Ainsi suis-je allée au travail d'images-sons parce que je m'approchais d'une langue maternelle que je ne voulais plus percevoir qu'en espace, tenter de lui faire prendre l'air définitivement. Une langue d'insolation qui rythmerait au dehors des corps de femmes circulant, dansant, toujours au dehors des filles essentielles. Quant à la langue française, au terme de quelle transhumance tresser cette langue illusoirement claire dans la trame des voix de mes sœurs? Les mots de toute langue se palpent, s'épellent, s'envole comme l'hirondelle qui trisse. Oui, les mots peuvent s'exhaler, mais leurs arabesques n'excluent plus nos cœurs porteurs de mémoire. Dire sans grandiloquence que mon écriture en français est ensemencée par les sons et les rythmes de l'origine, comme les musiques que Béla Bartok est venue écouter en 1913 jusque dans les Aurès. Oui, ma langue d'écriture s'ouvre aux différents, s'allège des interdits paroxystiques, s'étire pour ne paraître qu'une simple natte au dehors, parfilée de silence et de plénitude. Mon français s'est donc illuminé depuis 20 ans déjà de la nuit des femmes du Montchenois. Il me semble que celles-ci dansent encore pour moi dans des grottes secrètes, tandis que la Méditerranée étincelle à leurs pieds. Elle me salue, me protège. J'emporte outre-Atlantique leur sourire, image de chefa, c'est-à-dire de guérison. Car mon français, doublé par le velours, mais aussi les épines des langues autrefois occultées, cicatrisera peut-être mes blessures mémorielles. Mesdames et messieurs, c'est mon vœu final de Shefa pour nous tous. Ouvrons grand ce livre de la guérison, Kiteb Shefa de l'âme, guérison de l'âme, d'Avicenne Ibn Sina. Ce musulman d'Ispahan, dont la précocité et la variété prodigieuse du savoir, 4 siècles avant pic de la Mirandole, étonna lettrés et savants qui suivirent. Je ne peux m'empêcher, pour conclure, de me tourner vers François Rabelais, le grand traverseur des voies périlleuses, comme l'appelle François Bon. Rabelais donc qui, à Montpellier, pour ses études de médecine, dut se plonger dans ce livre de la guérison d'Avicenne. Dans sa lettre de Gargantua à Pantagruel, en 1532, c'est-à-dire un siècle avant la création de l'Académie par le cardinal de Richelieu, était déjà donné le conseil d'apprendre, premièrement, le grec, deuxièmement, le latin, puis l'hébreu pour les lettres saintes et l'arabe pareillement. Gargantua ajoutait aussitôt au programme du droit civil, je veux que tu saches par cœur tous les beaux textes. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, j'imagine qu'en ce moment, au-dessus de nos têtes, François Rabelais dialogue dans l'Empyrée avec Avicenne, tandis que je souris ici au doyen Vedel, auquel, grâce à vous, aujourd'hui, je succède.
Madame, recevant voilà 3 ans notre confrère, votre confrère François Cheng, j'ai remarqué, c'était un euphémisme, qu'il nous venait de loin. C'est d'aussi loin, peut-être de plus loin encore, que vous êtes aussi venu, quand bien même vous n'avez fait que traverser la Méditerranée. Algérienne et musulmane, femme musulmane surtout, née en un temps où le silence était la voix des femmes de votre pays, la petite fille qui a vu le jour à Cherchel, à quelques 150 kilomètres à l'ouest d'Alger, entre des collines couvertes de vignes et la mer, pouvait sembler à des années-lumière de l'Académie. Et pourtant, vous venez aussi de tout près de nous. Tout à l'heure, j'évoquerai quelques moments de votre vie et nous ne pourrons pas ne pas constater que, si radicalement étrangère à nous dans ses prémices, cette vie fait bel et bien de vous et pour chacun de nous une manière de petite ou de grande sœur. Mais si vous êtes, et depuis des années, de vos années d'écolière, si proche de nous, c'est parce que vous l'avez voulu. Vous l'avez voulu en dépit des voix du passé qui n'ont cessé de vous hanter, d'autres voix, une autre langue, les chants de vos mères. Vous l'avez voulu en dépit du poids d'une histoire si souvent très sombre que vous avez intimement vécue. Vous l'avez voulu en dépit de certains parmi des observateurs bien ignorants de la vie de notre compagnie qui n'ont pas compris comment vous pouviez succéder au siège du cher Georges Vedel au sein de la plus ancienne des institutions françaises. Vous l'avez voulu quand bien même, dans ce pays qui est le nôtre, on ne vous a pas, comme on dit, toujours fait de cadeaux. Vous venez de loin, mais vous étiez très proche de nous. En témoigne le magnifique discours que vous venez de prononcer sur celui qui fut l'un des gardiens de la Constitution de la France. C'est ce paradoxe qui, lors de votre élection, a pu étonner quelques commentateurs bien mal renseignés. Quoi ? Encore une étrangère ou presque à l'Académie ? Et qui ? Une romancière, un prof, dont beaucoup de très honorables habitants de la planète des gens de lettres naturellement parisiens ne savent pas grand-chose, puisque sortis des pages littéraires taillées pour eux sur mesure dans leur quotidien favori, ces bonnes âmes ne reconnaissent que ce qui leur ressemble. Une femme algérienne, donc, et qui était où, je vous le demande, pendant la guerre d'Algérie ? L'effarement d'une partie du carré solidement serré, vertueusement corporatiste, et pourtant si scrupuleusement correct, de quelques-uns de ses observateurs nous a plutôt fait sourire. c'est que si à l'ombre de leur clocher préféré et de ces banlieues immédiates, vous n'êtes pour certains qu'un écrivain féminin de plus, qui écrit des romans, certains ont même osé dire que vous écriviez des romans de femmes, pire pour eux que des romans de gare, sitôt passé les frontières du quartier, vous êtes tellement plus qu'un écrivain de plus. Vos livres sont traduits dans combien de langues? Vous avez enseigné dans combien d'universités étrangères? Des dizaines de thèses, je crois même des centaines, vous ont été consacrées. Et si vous écrivez des romans, ce par quoi nous sommes nombreux à pécher ici comme vous, vous écrivez aussi des textes admirables sur ce qui fait de vous l'écrivain que vous êtes depuis le premier jour. D'ailleurs, et jusque dans vos romans, c'est encore de cela qu'il s'agit. Oh, ce ne sont pas des romans à thèse, comme on ne le dit plus en nos années de confortable certitude. C'était reposant, les romans à thèse de l'après-guerre, de la nôtre, celle des années 40 ou 50. On nous démontrait quelque chose, nous savions où nous allions, on nous prenait par la main, quand vous, c'est par le cœur que vous nous prenez. Vous ne démontrez rien. Vous parlez, vous chuchotez, parfois, on dirait que vous chantez. Mais dans vos romans, vous nous en dites autant que dans vos essais sur vous, sur la femme que vous êtes, sur l'Algérie d'où vous venez, sur la langue que vous avez choisie et sur l'autre langue qui est, nous dites-vous, comme un chant. C'est naturellement de tout cela que je veux parler aujourd'hui et ce sera une tâche délicate. En effet, en ce début du XXIe siècle, où ce que la misérable traduction d'une non moins misérable terminologie américaine appelle le politiquement correct, oblige à une prudence verbale qui interdit bien souvent d'appeler un chat, comme il y a 50 ans on ne pouvait pas parler de guerre, mais d'événements en Algérie. En cette période si grise de la pensée, où une même langue de bois s'étend à tous les domaines du discours, de l'écriture, sinon de l'histoire, dont on exige qu'on la réécrive à la pâle lumière de nos absolues convictions du jour, quand on ne s'avise pas de demander aux législateurs de le faire à la place des historiens, en ce lieu même qui demeure, j'en suis convaincu, l'un des ultimes refuges d'une vraie liberté de pensée, ici même, oui, dans cette enceinte, je sais qu'il peut être difficile d'évoquer le destin d'une Algérienne dont tant de frères sont morts sous des balles françaises, ou pire encore, alors même que nous avons des frères, pour moi c'était un cousin qui m'était comme un frère, morts sous des balles algériennes, ou pire encore. Évoquer ce destin et les vérités qu'il nous assène exige une gravité bien éloignée de la légèreté qu'on pourrait se faire un plaisir de prêter au romancier que j'essaie d'être. C'est peut-être pour cela, et aussi parce qu'à plusieurs moments de ma vie, et sans le savoir, je me suis senti tout près de vous, que c'est avec bonheur que j'ai accepté l'invitation que m'a faite Madame le secrétaire perpétuel de vous accueillir. C'est donc votre destin exceptionnel que je veux évoquer cet après-midi, une vie romanesque en diable, oserais-je dire, pleine de bruit et de fureur, mais de poésie aussi, de tendresse, de lumière. C'est cette vie d'aventurière de l'esprit et de la liberté que je vais d'abord essayer de brosser, avant de tenter de rassembler un peu de ce que vous apportez à la langue française et à l'histoire de nos deux pays. Vous êtes née, madame, c'est ainsi que commencent à peu près tous les discours de réception dans cette académie qui est désormais la vôtre. Vous êtes donc née, madame, quelques années avant la Deuxième Guerre mondiale, dans une petite ville au bord de la mer. Votre père était instituteur. Voilà de quelle manière j'aurais dû entrer dans le fort de ce discours. Je crois pourtant que cet incipit n'aurait pas été tout à fait exact. Certes, vous avez vu le jour dans l'ancienne Césarée des Romains, fameuse pour ses mosaïques, qui devint, pendant une autre guerre, le haut lieu de formation de ce qu'on appelait alors les élèves officiers de réserve de l'armée française, les EOR, dont il se fallut de peu que je fasse partie. Certes, votre père était instituteur, et vous le décrivez à plusieurs reprises, vous conduisant à l'école par la main, et votre mère l'avait épousé sans presque le connaître. Mais vous portez aussi en vous l'héritage de millions de femmes, tout à la fois arabes, bédouines, berbères, turques peut-être, mais aussi françaises, qui à travers les siècles ont fait de vous celle que vous êtes et dont ce sont les voix que vous nous faites entendre. De Fatima, la fille du prophète, à Taos Amrouche, que dont nous avons écouté les chants, ou à ces deux Jamila, qui connurent en d'autres temps la douleur et la prison, jusqu'à cette Yasmina, votre amie, qui déclarait en 1994 ne pouvoir vivre hors d'Algérie et qu'on retrouva ensuite très vite assassinée dans un fossé. D'elles à vous, votre vie et vos voix semblent faites de ces millions de voix, de ces millions de vies. Si bien que, évoquant votre vie, c'est celle de beaucoup de femmes et de l'Algérie tout entière qu'il faudrait retracer. Vous m'avez facilité la tâche, puisque cette vie, vous n'avez cessé de nous la raconter dans la plupart de vos ouvrages. Mais cette tâche, vous me l'avez compliquée aussi, puisque parlant de vous, votre enfance, de vos éducations littéraires, sentimentales et poétiques, c'est de tant d'autres que vous parlez aussi, que vous lisant, on ne sait pas toujours si c'est de Fatma Zora Himalayen, votre vrai nom devenu Assia Djebar, écrivain de langue française, que vous nous parlez, ou de toutes les autres. Et pourtant, le destin de ces femmes qui vous ont précédé, c'est avec les mémoires passionnées d'une historiographe attentive que vous en déroulez de livre en livre la généalogie entre ces montagnes dont elles sont descendues, berbères, arabes, voire andalouses, et les petites villes que vous appelez coloniales où elles vécurent, côtoyant au jour le jour, parfois timidement, parfois farouchement, des Européens qui ne les voyaient pas toujours. Il y a votre grand-mère, la Fatma Sahraoui, dont un aïeul combattit aux côtés d'Abdelkader et connut avec lui l'exil. Elle-même, mariée à 14 ans à un vieillard dont les petits-fils portaient déjà la barbe, eut trois maris, et bien loin de ressembler à la plupart des femmes de votre pays, devint une maîtresse-femme, gardienne de la loi des femmes et héritière de vastes terres qu'elle se battit toute sa vie pour conserver. Cette grand-mère, si forte, vous l'avez parfois surprise en train de danser toute seule dans sa maison. C'était, m'avez-vous dit, une manière de transe, une danse hallucinée, presque folle, qui lui permettait de se retrouver elle-même après des semaines de tension et de labeur à la tête de son domaine. Il y a votre mère ensuite, la Benjamine de la Fatma, Baya Sahraoui, qui, comme sa mère à elle, aimait les musiques andalouses qu'elle recopiait dans des cahiers et que vous nous racontez allant avec vous au hammam, mais déjà citadine et dont le frère est toujours le plus vieux notaire d'Algérie. Et puis, après la Fatma et Baya Sahraoui, avant Djelila, votre fille, il y a vous, bien sûr, l'héritière de cette belle lignée, vous qui leur ressemblez si peu alors que vous les ressemblez toutes. Vous leur ressemblez si peu parce qu'il y a eu votre père, l'héritière de la grand-mère qui dansait seule dans sa maison. Vous êtes aussi la fille d'un père exemplaire qui illustre parfaitement le débat qu'on a voulu relancer sur les apports de la colonisation. Tahar Himalayen, votre père, était le fils d'un Algérien qui, ruiné en 1871, s'enrôla en 1884 dans les Spahis, se battit pour la France au Tonkin et participa même en grand uniforme à la garde d'honneur qu'on réunit à Paris pour accueillir le tsar de toutes les Russies. Et c'est ce retraité, sur la place de son village, que c'est ce grand-père, décoré par la République, qui attira l'attention d'un instituteur français. L'histoire est trop belle pour ne pas être rappelée. Nous sommes au cœur d'un récit superbement édifiant, comme on en écrivait alors sur une Algérie constituée de trois départements français et destinée à le demeurer pour l'éternité. L'instituteur qui remarque l'ancien soldat, l'ancien militaire qui lui parle de ses fils, l'instituteur qui ouvre aux deux fils son école et une décennie plus tard, votre père, qui se retrouve lui-même futur instituteur à l'école normale de Bouzaréa. Il y sera le condisciple de Mouloud Feraoun, assassiné par l'OS en 1962, mitraillé avec six instituteurs, des Algériens et des Français venus de France, devant les murs de la villa où, dans les derniers mois de la guerre, ils s'étaient réunis pour parler de la paix. Instituteur socialiste qui fêtait la nuit du 4 août après le 14 juillet, c'est votre père. Vous l'avez écrit aux premières pages du premier volume de votre quatuor « L'amour, la fantasia », qui vous prendra par la main un matin d'automne pour vous conduire à l'école. On a récemment republié une photo de l'école primaire de Mouzaïra dans la Mitidja. Sur la photo, vous regardez ailleurs, loin de l'objectif. Votre père, lui, s'y tient droit, presque au garde-à-vous. c'est que c'était une belle mission alors que d'être instituteur de la République. Et c'est lui, très vite, qui vous a donné le goût des livres. Vous lisez déjà beaucoup. Ainsi allez-vous passer vos jeunes années entre deux mondes. Il y a le côté de la grand-mère, qui est celui de la montagne, où vous séjournez le temps de vos vacances. Et il y a le côté du père, que la mère partage avec étonnement, parfois avec avec pudeur toujours. C'est le côté de la ville, de la colonisation, plus gris et plus poussiéreux, quand l'autre est lumineux, rempli de couleurs, d'odeurs, de chants. C'est donc entre ces deux mondes que vous allez d'abord vivre. Celui où les femmes chantent et parlent entre elles, et celui où votre père vous a fait entrer parce qu'un peu plus d'un siècle avant votre naissance, de gré ou de force, il avait bien fallu que certains de ses pères y entrassent avant lui, l'uniforme du spahi, ou le costume-cravate de tare himalayenne fut-il coiffé d'un fez. Ce monde-là sera vite celui du collège de Blida, où, faute d'y pouvoir apprendre l'arabe classique, vous avez commencé à apprendre le latin, le grec et l'anglais, et à lire d'autres livres. Aussi inattendu que cela puisse paraître, à 13 ans, la fille de Baya et la petite fille de Yema Hada, comme vous l'appelez dans l'un de vos romans, va dévorer la correspondance échangée entre un écrivain français mort au premier jour de la guerre de 1914 et celui qui allait devenir son beau-frère, mort 11 ans après lui. Je veux parler d'Alain Fournier et de Jacques Rivière. Avec ce livre fondateur pour vous tombé par hasard entre vos mains et dont je ne suis pas sûr que beaucoup d'entre nous l'aient lu, c'est tout un univers qui s'ouvre à vous et qui vous deviendra si familier. Le monde de Gide, celui de Claudel, celui de Marcel Proust. Toute la littérature française de cette première moitié de siècle. La lecture d'abord, mais vous écrivez aussi. Quand bien même vous avez pu longtemps croire qu'écrire, c'était, avez-vous dit, mourir lentement, c'est la langue française, écrite et lue, qui, avec les lettres que vous lui écrirez, vous conduira vers celui que vous appelez déjà l'aimé. Aimé avec un A majuscule. La suite de cette éducation, ce sera la classe d'Hippocagne au lycée Bugeaud d'Alger, où Camus fit ses études avant vous, et que j'ai visité autour de 1990, dans les jours qui précédèrent, ce qui donne un titre symbolique à l'un de vos plus beaux livres, « La disparition de la langue française ». Vos années d'Hippocagne se déroulent si bien que le proviseur du lycée Bugeaud suggère à la jeune fille qui lit Camus et qui écoute Schubert et Ravel d'aller plus loin. Dès lors, les événements vont s'enchaîner. Votre vie, l'histoire. En octobre 1954, vous traversez la mer pour la première fois et vous vous retrouvez élève au lycée Fénelon. La petite fille d'entre la montagne et la ville coloniale va vivre au croisement du boulevard Saint-Germain et du boulevard Saint-Michel. L'un de vos professeurs s'appelle Dina Dreyfus. Elle est l'épouse de monsieur Claude Lévi-Strauss. Vous le voyez, la rencontre de cet après-midi se prépare déjà. Vous avez aussi une amie qui le restera jusqu'à aujourd'hui. Elle est des miennes aussi. Mieux que personne, elle sait parler de Dante et de Proust. Elle s'appelle Jacqueline Risset. Ensemble, vous continuerez à lire Proust, mais vous ferez aussi de joyeuses fêtes le soir, après le Ramadan. Que la vie peut sembler alors joyeuse au quartier latin. On écoute Brassens et Léo Ferré. Rue de la Huchette, on joue Ionesco, comme on s'essouffle encore à le jouer aujourd'hui. Et comme vous-même, vous le jouerez un demi-siècle plus tard à New York, quand un Trichot vous jacque ou la soumission. La nouvelle vague va naître 2 ou 3 ans plus tard, mais les cahiers du cinéma ont déjà vu le jour et Pierre Caste, Alain René ont tourné leur premier court-métrage. Agnès Varda, elle fera le sien en 1956, il s'appelle « Aux saisons, au château ». Mais depuis le 1er novembre 1954, tout a changé en Algérie. La vie n'est plus si joyeuse que cela au quartier latin. Vos amis algériens, étudiants, vous parlent de ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, vous en entendez parler par votre famille. Certains se posent des questions, d'autres n'ont pas besoin de se les poser. Vous les écoutez. En 1955, pourtant, et du premier coup, vous entrez à l'école normale supérieure. Vous êtes la première jeune fille musulmane à intégrer la grande maison. Vous serez bientôt suivie par une autre, Bethul Lambiot, qui est ici ce soir. Là, vous auriez encore une fois voulu apprendre une langue que vous connaissez un peu trop, que vous connaissez trop peu, l'arabe littéraire. Encore une fois, ça ne sera pas possible. Cette langue absente constituera une béance dans votre vie d'étude d'écrivain. Béance que vous comblerez autrement. Votre première année universitaire commence à Sèvres, tandis qu'après la chute du gouvernement de Pierre Mendès France, la paix en Algérie devient la priorité des partisans du Front républicain d'alors, parmi lesquels certains furent ou sont nos confrères François Mauriac, Pierre-Henri Simon, René Raymond. La paix en Algérie. En février 1956, Guy Mollet, président du Conseil socialiste, que le président Coty a préféré à un Pierre Mendès France, qui pourtant, lui, avait su faire la paix en Indochine, se voit insulté devant le monument aux morts d'Alger et reçoit des tomates sur la figure. Elles sont entrées dans l'histoire de la 4e République, les tomates d'Alger. 5 semaines plus tard, toute la gauche, communiste compris, n'en votera pas moins à Guy Mollet les pleins pouvoirs en Algérie. La rébellion avec ou sans guillemets s'accélère, la pacification avec ou sans d'autres guillemets se met en place. En France, pourtant, des voix s'élèvent. Bientôt, le général de Bollardière parlera dans l'Express de la vraie guerre en Algérie, et puis ce sera la bataille d'Alger. À Paris, les étudiants de l'UGMA, l'Union Générale des Étudiants Musulmans Algériens, décident la grève des cours. Vous êtes à Sèvres. Un brillant avenir universitaire s'ouvre à vous, mais vous aussi, vous dites non. Vous suivez le mot de grève, vous ne passez pas vos examens, mais parce que vous ne sauriez perdre votre temps, eh bien vous écrivez votre premier roman. Et la jeune Fatma Zora, 20 ans, décide, pour ne pas choquer ses parents, de s'appeler Assia Djebar. Assia, c'est la consolation. Djebar, l'intransigeance. Quel beau choix. Assia Djebar est née au mois de janvier 1957 chez René Julliard, qui fut aussi 5 ans plus tard mon premier éditeur. Grâce à Christian Bourgois, nous rencontrerons tous deux Pierre Nora, qui vient d'écrire un livre sur les Français d'Algérie. Du personnage de la soif, votre premier roman, auquel d'aucuns trouveront des accents saganesques, vous direz que la découverte de son corps est aussi pour elle une révolution. La même année, 1957, votre frère montera au maquis, il sera arrêté, libéré, il repartira. C'est aussi en 1957 que le premier condamné à mort algérien a la tête tranchée à la prison de Barberousse. Le nom de Ahmed Zabara s'inscrira dans votre mémoire. Un an plus tard, après le bombardement de Sakiet en Tunisie, vous êtes toujours en grève, et la nouvelle directrice de Sèvres, un très grand professeur, vous oblige à quitter l'école. « Tu es notre remords », vous dira bien plus tard l'une de vos camarades, retrouvée par hasard, qui, pas plus que ses autres condisciples, n'a rien fait alors pour vous soutenir. Vous n'êtes plus normalienne, que pouvez-vous alors faire, sinon écrire ? Vous publiez votre deuxième roman, « Les impatients », dont les héros se révoltent contre un ordre pour eux insupportable. Mais chassée de normal, l'étudiante algérienne décide de quitter la France pour la Tunisie. Sa vie bascule à nouveau. D'ailleurs, elle a 22 ans et elle vient de se marier. Votre existence va suivre dès lors le cours de ce qui se passe à Alger, mais aussi à Paris, à Tunis, puis au Maroc, où vous vous installez en 1959. Les noms de Bourgès Monory, de Robert Lacoste, de Félix Gaillard se succèdent en première page des journaux, mais arrive déjà mai 1958, le général de Gaulle est revenu. Vous étiez une étudiante qui écrivait, vous êtes devenue un écrivain en lutte. Écrivain et militante, même si vous le dites vous-même, vous refusez ce terme, car d'autres l'auraient mérité plus que vous, et vous n'avez jamais été d'aucun parti. Écrivain, puisque vous écrivez encore coup sur coup 2 livres. Les enfants du Nouveau Monde paraîtra en 1962. Vous avez voulu, là, dites-vous, jeter un regard sur les vôtres. Pourtant, c'est Les Alouettes naïves, commencées en 1962, mais publiées plus tard, en 1967, que vous jugez aujourd'hui comme le plus complet de vos 4 premiers romans. Vous avez 23 ans, 24 ans. Vos anciennes condisciples préparent ou passent l'agrégation. Vous menez, vous, une vie d'écrivain marié à un homme de théâtre. Dans cette maison de Sidi Boussaïd, dont vous avez gardé la nostalgie, ou à Rabat ensuite, vous rencontrez des hommes comme Maurice Clavel, comme Jean Daniel, qui préside aujourd'hui ce comité de l'épée qui vous a remis la semaine dernière un sabre presque redoutable. Vous faites, avec Anatole Dauman, un projet de film autour de Mohamed Dib. Dans le même temps, sous la direction de Louis Massignon, vous poursuivez un projet de thèse sur une sainte patronne de Tunis, Aïcha El Manoubia, qui vivait à la fin du XIIe siècle. Vous rencontrez aussi d'autres écrivains, Kateb Yassine, naturellement, et ainsi ce sont tous les grands auteurs maghrébins de langue française dont vous êtes aujourd'hui l'héritière, qui se retrouvent autour de vous. Mes écrivains, vous êtes aussi engagés dans la vie de l'Algérie. En quittant la France, vous êtes passé par la Suisse, où vous avez rencontré un ami de votre famille, Ferhat Abbas, qui sera le premier président de la République algérienne. À Tunis, ensuite, vous travaillez aux côtés de Frantz Fanon, dont Les damnés de la terre, que nous avons nous aussi lu à 20 ans, va devenir un bréviaire pour les mouvements de libération dans le monde entier. Vous êtes une journaliste engagée qui écrit pour El Mujahid, et l'un de vos premiers reportages sera précisément sur ces camps qui ont accueilli des réfugiés après le bombardement de Sakhiet. La guerre se poursuit en Algérie. Dans Les Alouettes naïves, c'est la guerre à Blida que vous racontez. À la même époque, dans mon second roman, qui paraîtra un an après le vôtre, c'est la guerre à Oran, dont je parlerai, et de ma secrétaire assassinée par l'OAS sur le parvis de la nouvelle préfecture où j'étais en stage. Mais le général de Gaulle a déjà parlé d'Algérie algérienne. Le général Buy a écrit un terrible roman, La Grotte, prémonitoire d'une partie de votre œuvre. Le manifeste des 121 a été publié. Mais si vous vivez, madame, au rythme des événements qui ont marqué la jeunesse de beaucoup d'entre nous, c'est de votre vie et de celle de tous les vôtres qu'il s'agit, quand nous, de quelque bord que nous ayons été, nous nous indignions le plus souvent que de bien loin, même si cette guerre nous frappait aussi. Les accords d'Évian sont enfin signés, et le 1er juillet, vous revenez enfin à Alger, comme journaliste. Françoise Giroud vous y envoie pour l'Express de la Grande Époque, celui de Jean-Jacques Strever-Chébert et de François Mauriac. Naturellement, vous ne pouvez pas faire autrement, vous voulez vivre en Algérie. Et c'est encore une fois une autre vie qui commence. Aussi, dès la rentrée de 1962, vous êtes le seul professeur à enseigner l'histoire moderne et contemporaine de l'Algérie à Alger, aux côtés d'André Mandouze, qui vient de disparaître. C'est le temps de tous les espoirs. D'Europe et du monde entier convergent vers l'Algérie d'autres amis de l'Algérie. On parle cinéma, littérature, théâtre. On parle, on écrit en français, en arabe. On est heureux. Et puis, dès 1963, alors qu'il s'agit simplement au départ de réviser les manuels d'histoire et d'oublier un peu nos ancêtres, les Gaulois, qui n'ont pas encore tout à fait disparu des textes proposés aux petits écoliers algériens, la question de la langue, celle des langues, se pose. Elle se pose finalement de telle manière que, professeur d'histoire, votre enseignement doit être dispensé en arabe. Si bien que, comme à Sèvres en 1957, vous refusez. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous êtes vraiment une femme qui sait dire non. Et à cause de cela, à cause de la langue française, vous quittez l'Algérie. Si j'insiste de telle manière sur votre vie, c'est parce que votre vie et votre œuvre sont intimement liées, mais c'est aussi parce que votre vie elle-même est une création quasi romanesque que vous avez voulu, pétrie d'histoire, irriguée d'humanisme, inondée d'attention aux autres. 9 années passent. Le temps semble reprendre son souffle. Vous vivez à Paris, mais vous revenez souvent en Algérie. Vous saviez déjà que vous ne pouvez pas avoir d'enfants selon le sang, nous avez-vous expliqué. Aussi, entre-temps, avez-vous adopté un enfant selon le cœur, et vous vous en réjouissez, c'est Jalila, votre fille. Bientôt, vous allez pouvoir revenir en Algérie, et vous voilà à nouveau enseignant, et en français, la littérature française et surtout le cinéma. Comme du temps de Sidi Boussaïd ou de la Maison du Maroc, vous êtes au cœur d'une constellation d'artistes, d'intellectuels, de rêveurs. Depuis 1962 et Les Alouettes naïves, publiées 5 ans plus tard, vous n'avez rien écrit, et ce n'est qu'en 1980 que sortira votre livre suivant, Des années d'un silence sur lequel il vous arrivera de vous interroger. Mais c'est le cinéma, vous nous avez dit, que vous avez choisi maintenant, et vous vous passionnez pour cette nouvelle forme d'expression. Vous devenez une cinéaste passionnée, sans abandonner d'un iota tout ce qui a été jusque-là votre raison d'écrire. Dans les deux films que vous avez tournés à cette époque, La Douba des femmes du Mont Chénois et La Zerda ou le chant de l'oubli, un fil souvent ténu de fiction accompagne des voix de femmes. L'Algérie que vous vivez, celle qu'ont vécu vos mères et vos sœurs, celle de l'enfermement et du silence, celle de la guerre, de l'horreur, celle de l'espoir, se racontait à une langue très simple, très proche de ce qu'on a pu appeler le cinéma du réel. Une caméra parfaitement maîtrisée y suit pas à pas les gestes quotidiens des femmes qui vont à la fontaine dans les villages, tandis qu'en contrepoint, comme dans vos romans à venir, on y voit au fil des jours la vie d'une jeune femme très belle et qui vous ressemble, et celle d'un homme blessé. Ils sont les seuls acteurs professionnels. On ne saurait pourtant les appeler les autres des amateurs, car c'est leur vie de tous les jours que vous avez filmée. Parfois, de brefs extraits de la plus sombre des actualités du passé y évoquent la guerre. Rafales de mitraillettes qui déchirent le calme de la campagne. C'était la vie, c'est la vie. On pense à Jean Rouche, bien sûr, attentif comme vous aux mêmes gestes du quotidien. On pense aussi encore à Agnès Varda. La musique y est omniprésente, les danses sacrées de votre grand-mère et les musiques andalouses de votre mère. Il y aurait beaucoup à dire sur le choix de ce nouveau langage, comme si la langue écrite, qui était la langue de l'autre, était chez vous en suspens. Pourtant, vous ne pouvez pas ne pas revenir à l'écriture. Et, en 1980, vous publiez l'un de vos plus beaux livres. En un sens, le premier livre qui vous rassemble toutes, vous et toutes celles qui parlent en vous, dont l'écriture va relayer le silence. Ces femmes... « Femmes d'Alger dans leur appartement », un titre que vous empruntez à un tableau peint par Delacroix. Vous quittez encore une fois l'Algérie, vous vous installez près de Paris, vous êtes à présent totalement écrivain. On ne le sait peut-être pas encore assez ici, mais vous avez déjà à l'époque des milliers de lecteurs fidèles. Vous avez vos « fans », entre guillemets. On commence à vous étudier dans les universités, pas en France d'ailleurs. Mais quel livre écrivez-vous ? En 1985, c'est « L'amour, la fantasia », votre roman le plus connu qui achève de vous faire entrer dans la catégorie des écrivains vraiment fêtés, fût-ce surtout en traduction. « L'amour, la fantasia » est le premier volume d'une tétralogie, votre quatuor algérien. Le récit s'y développe en deux temps, par un système de montage alterné, comme vos films. La première phrase du livre est un peu votre « longtemps je me suis couché de bonheur ». Elle est devenue une sorte de mot de passe parmi ceux qui vous connaissent. « Fillette arabe », vous décrivez-vous, « fillette arabe allant pour la première fois à l'école, un matin d'automne, main dans la main du père ». Parallèlement à ce récit très pur de vos enfances, se développe ce que nous, les Gaulois, nous appelons la conquête de l'Algérie, une conquête vue par ceux, les conquérants, les Français qui l'ont vécue. Élan est là, faisant preuve d'une habileté extrême à chercher, trouver et mettre en valeur toutes les sources, vous vous révélez ce que vous êtes aussi, une historienne scrupuleuse qui, en d'autres temps, a hanté les archives d'Alger, voire celles du Quai d'Orsay et de la Bibliothèque nationale de la rue de Richelieu. Une archiviste attentive, certes, mais toujours passionnée. Si, dans la partie intime du livre, c'est essentiellement à des femmes que vous donnez la parole, dans ce qui en constitue la trame historique, vous ne donnerez certes pas la parole à des hommes, non. Ils n'en ont pas besoin, eux, puisqu'ils l'ont, eux, qu'ils imposent et l'écrivent. Officiers soucieux de raconter ce qu'ils ont vécu, ou premiers journalistes, jusqu'à un directeur de théâtre qui décrit en somme le théâtre des opérations. Non, vous n'avez rien à leur donner, à eux, mais vous rapportez scrupuleusement leurs propos d'hommes, vous faites l'écho des voix autorisées à s'exprimer à leur guise, coup de clairon à l'appui du grincement de leurs plumes des mémorialistes satisfaits, et ce, dans une langue qui est celle-là même dont vous userez un siècle plus tard pour traduire les voix des femmes. Écrivain, vous publiez de nouveaux livres. le deuxième volume du Quatuor, Ombre Sultane, en 1989. Puis un très beau récit historique, plus serein, mais tout aussi passionné, Loin de Médine, qui donne la parole, cette fois, à une autre Arabie, celle de Fatima, la fille du prophète. Le troisième volume du Quatuor paraît en 1995. C'est Vaste et la prison. Vous êtes maintenant couronné par de multiples jurys. Vous faites des conférences à l'étranger surtout. Vous êtes devenu un écrivain dont le rôle dans la cité, et pas seulement dans la cité des femmes, est amplement reconnu. Mais les mêmes voix vous hantent toujours et vous savez les écouter plus posément, peut-être encore que cet adverbe-là, posément, vous aille bien mal. Et voilà que la tragédie algérienne recommence. Des villageois sont assassinés, pas seulement dans la montagne. Un barrage sur une route, un faux policier, une rafale de fusils mitrailleurs. Jusqu'à cette communauté de moines français dont, enlevés pour qui, exécutés par qui, on n'a jamais retrouvé que les têtes mutilées. Dans les villes, ce sont des intellectuels qui paient le prix de leur liberté de parole, des artistes. C'est une autre terreur qui règne à présent en Algérie, où une balle dans la tête, votre beau-frère lui-même, le dramaturge Abdelkader Alula, sera assassiné. Dans deux de vos livres suivants, Le Blanc d'Algérie, publié en 1995, puis dans la disparition de la langue française, en 2003, vous donnez la parole à ces morts. L'horreur est d'autant plus insoutenable que beaucoup d'entre eux sont vos frères, des frères de pensée, et que ce sont des Algériens qui tuent des Algériens. Alors vous vous souvenez de tous vos morts, ceux d'hier, ceux du matin même, comme ceux de la prison de Barberousse, les guillotinés. Mais vous vous souvenez aussi de ceux, plus d'un millier peut-être, étudiants ou intellectuels, qui, fuyant la capitale après la bataille d'Alger pour rejoindre le maquis, ont été eux aussi exécutés par leurs frères, à peine arrivés dans la montagne. On avait voulu faire croire qu'ils avaient été retournés, comme on dit dans une langue elle aussi sans pitié, retournés pour trahir ceux qu'ils étaient venus aider. Ces morts-là, je crois bien que vous les portez en vous avec la même souffrance que celle que vous éprouvez en évoquant dans un autre de vos livres, La femme sans sépulture, le destin d'une grande mort de cette guerre dont les accords d'Évian auraient dû marquer l'issue heureuse pour l'Algérie tout entière. L'issue heureuse, souvenez-vous de votre retour du Maroc et de votre reportage pour l'Express. L'espoir était si fort en vous, et l'on en est arrivé là. La litanie des noms et des morts qui fait du blanc d'Algérie une manière de requiem désespéré n'est que la très brève évocation de quelques-uns des milliers de morts qu'ont connus trois des plus noires années de votre pays. C'est habité par ce nouveau deuil. Tahar Djaout, romancier et journaliste, assassiné en 1993. Youssef Sebti, poète assassiné en 1993. Saïd Mekbel, journaliste, assassiné en 1994. Et tant d'autres que vous allez vous vivre, j'ai failli dire survivre, pendant cette décennie terrible. Vous savez que vous ne pouvez pas, au risque de votre vie, revenir en Algérie. Aussi commencez-vous un nouvel exil. Vous devenez professeur à l'autre bout du monde. La Sévrienne chassée de Sèvres, le professeur qui n'a pas voulu ne pas enseigner en français en 1964 se retrouve un moment à Berkeley, puis à Baton Rouge, en Louisiane. Les prix littéraires et les distinctions continuent à pleuvoir sur vous, pas vraiment en France, non, mais partout ailleurs, à Bruxelles, en Allemagne, à Boston, où vous recevez le prix Marguerite Yourcenar. Encore un signe. En 1993, vous êtes élu à l'Académie royale de Belgique, et c'est un nouveau signe, vous êtes élu au fauteuil de Julien Green. L'année suivante, vous publiez un recueil de textes qui tous traitent passionnément des langues, de la langue et du français. Le livre, Ces voix qui m'assiègent, reçoit le prix de la paix à Francfort-sur-le-Main, où vous prononcez un superbe discours. Vous êtes en train de devenir un notable, madame, et si le mot vous choque trop, je dirais une notabilité. Vous quittez Baton Rouge pour la New York Université, où notre ami Tom Bishop vous accueille. Et depuis 2000, vous êtes professeur, bientôt titulaire d'une chaire fameuse au cœur de Greenwich Village. Vos étudiants vous adorent, vous terrifiez, je crois, les responsables administratifs par une fougueuse désorganisation qui contraste avec la rigueur intransigeante de votre travail. Et c'est en français, car vous avez des dons pour tout, et surtout pour tout dire, sauf pour le dire en anglais. C'est donc en français que vous parlez à des étudiants de Camus et de Kateb Yassine, de Mouloud Feraoun et de Jean Pellegri, d'André Chédid et d'Hélène Cixous. On vient de loin pour vous écouter. Les prix, les distinctions et autres docteurs honoris causa déferlent toujours sur vous, aux États-Unis encore, en Italie toujours, en Allemagne encore. Enfin, le 16 juin 2005, vous êtes élu à l'Académie française. La presse, le grand public qui vous découvre enfin, célèbre cette élection comme un triomphe pour vous et pour le monde francophone. C'est aussi un grand moment de la vie de l'Académie, quand bien même j'ai dit de quelle manière d'aucuns ont pu lever les sourcils, mais qui est donc cette dame? Vous étiez si loin d'eux. Trêve d'ironie, madame. Fût-ce envers ceux qu'a surpris, voire mis mal à l'aise, la venue parmi nous d'une musulmane née de l'autre côté de la Méditerranée, dont le discours sur la guerre, sur la violence et l'histoire semble pourtant répondre à tous les canons de cette bien-pensance dont j'ai pu moi-même sourire tout à l'heure. Une attitude intellectuelle et morale, la vôtre, qui fait aujourd'hui l'objet d'un quasi-consensus parmi tous ceux dont l'opinion domine, ce qui n'est plus vraiment un débat philosophique ou politique, mais constitue le bagage idéologique et sentimental de base de tout intellectuel ou prétendu tel ayant droit de parole dans la cité. Trêve d'ironie, car il se trouve que ces discours, vous le tenez, vous, madame, depuis vos 20 ans. Il a certes évolué, il s'est approfondi, mais son contenu est demeuré le même, fait de révolte, de passion, d'amour de votre terre et de haine de la haine. Il est fait aussi de cette ambiguïté passionnée qui lie, osons les mots, le colonisé au colonisateur. Si exprimer aujourd'hui ces idées-là, les publier dans la presse qui s'y ouvre avec la même évidence qu'aux critiques gastronomiques ou au classement rituel des 100 meilleurs hôpitaux de France, est devenu un exercice qu'on peut pratiquer sans risque dans nos démocraties, il en était bien autrement quand vous les proclamiez, ces vérités-là, et quand vous les viviez. Ainsi, en 1957, quand vous suiviez les mots d'ordre de l'UGMA, quand vous suiviez les mots de l'UGMA et claquiez la porte de l'Université française. Quand, de Tunis, vous rendiez compte de ce qui s'était passé à Sakiet, bombardé par ce qu'on considérait alors comme un droit de poursuite, aussi légitime alors que l'est aujourd'hui le droit d'ingérence, dont notre confrère Jean-François Revel inventa le nom. Quand, au début des années 60, c'est la porte de l'université algérienne que vous claquiez, parce que vous vouliez parler français, français quand même. Hier encore, quand vous défendiez les mêmes principes pour lesquels on a tué tant de vos amis, poètes ou artistes algériens, c'est bien le même risque que vous preniez. Ah, nous sommes bons aujourd'hui à en signer des pétitions où se mélangent tardivement les noms des vedettes du jour et de nos saltimbanques préférés à ceux des mêmes penseurs de service, voire à ceux d'hommes politiques qui n'en sont plus à une signature près. Mais lorsqu'en septembre 1960, des professeurs, des journalistes, des écrivains, dont Jean-François Revel, encore lui, toujours lui, signaient une déclaration sur le droit à l'insoumission qui leur valut de vraies sanctions. Quand en octobre 1961, combien d'Algériens descendus des bidonvilles de Nanterre trouvaient la mort dans les conditions que l'on sait, ou plutôt que l'on ne sait pas vraiment, défiler dans la rue ou signer un bout de papier pouvait coûter autrement cher. Oui, vous-même, exclu de l'Université française, il a fallu solliciter par Maurice Clavel une intervention personnelle du général de Gaulle pour établir dans ses droits celle qu'il considérait comme une si brillante sujette. Vous avez dit un jour que vous n'aviez, vous, jamais signé d'appel ni de pétition, mais vous avez vécu et vous avez écrit, au risque de tout perdre, quand ça rapporte aujourd'hui beaucoup de faire des best-sellers, ce qui, hier, pour vous, était mortel. C'est pour cela que vos mots, vos révoltes et vos compassions nous vont tout droit au cœur. Certains les ont partagés alors. Bien tardivement, j'ai moi-même consacré un livre à cette nuit très noire du 17 octobre 1961. Mais si c'est le plus grand nombre qui les partage à présent, avec vous, votre force, madame, c'est d'avoir été l'une des premières à les dire et surtout à les vivre. Votre force, c'est de ne vous être jamais éloigné de ce discours, toujours davantage enraciné dans l'histoire, ancré au plus profond de la langue. La langue. Au commencement, en vous et en votre œuvre était la femme, puis vinrent très vite les langues, la langue, c'est avec elle que je voudrais terminer. Mais la femme d'abord, la femme arabe. « Vaste est la prison qui m'écrase », dit la chanson berbère, dont les paroles servent de titre au troisième volume de votre quatuor. L'ennemi est dans la maison, assure parlant de son mari dans « Vaste est la prison » une femme au voile immaculé, avant de masquer tout à fait son visage, car elle doit rentrer chez elle. Voilà le monde que vous peignez. Ce monde qui était celui de la grand-mère mariée à 14 ans, mais qui est encore celui d'une narratrice qui vous ressemble et qui s'enfuit comme une voleuse du cabinet médical, ou un docteur qui, parce qu'il va en somme la prendre en charge, n'est plus un homme comme les autres, mais une manière de père. Une fille ne saurait défaire son corsage devant le père. Est-ce dans la nouba des femmes que, parlant de l'enfermement des femmes dans les campagnes, vous réinventez cet adjectif terrible ? Vous parlez des femmes arables, A-R-A-B-L-E-S, arables comme la terre qui défonce la charrue, la terre qui produit le blé, les fruits en silence. Mais le silence qui symbolise cet enfermement, c'est bien sûr la langue, les mots, la lecture, l'écriture, qui vous en a fait sortir. L'école de la République, oui, les premiers livres lus. La langue française. Et là, j'aborde ce qui est au cœur même de votre vie, cette attention à la langue, à toutes les langues, elle est partout dans votre œuvre, indissolublement liée pour vous et pour toutes les femmes arables et corvéables à merci pour lesquelles vous écrivez, indissolublement liée, donc, à leur sort à toutes. Vous le dites dans L'amour et la fantasia, je vous cite. « Tandis que l'homme continue à avoir droit à quatre épouses légitimes, nous disposons de quatre langues pour exprimer notre désir, pour exprimer notre désir. Le français pour l'écriture secrète, l'arabe pour nos soupirs vers Dieu étouffés, le libico-berbère quand nous imaginons de retrouver les plus anciennes de nos idoles mères, la quatrième langue pour toutes jeunes, vieilles ou cloîtrées, celle du corps, que le regard des voisins, des cousins, prétend rendre sourd et aveugle, quatre langues qui sont autant d'ouvertures vers la liberté. La langue du corps, vous l'évoquez souvent. J'ai dit les danses d'une surprenante violence de la grand-mère. Mais ce sont aussi ces danses lentes et compassées qu'invitées parmi d'autres femmes en costume de fête, vous transformiez, vous, je vous cite, en une danse nerveuse, hybride, un défi de votre corps englouti face à cette frénésie collective des femmes dont vous vouliez vous écarter. Le libico-berbère est la langue de la nouba des femmes et des confidences sans fin, une langue pour vous sans écriture, même si dans une passionnante plongée dans l'histoire jusqu'à Jugurtha qui défia Rome, vous nous dites qu'il a existé une écriture libique aussi ancienne que l'étrusque ou que celle des runes. Mais le libico-berbère, c'est d'abord la langue que transmetteuse, je n'aime pas le mot passeuse, trop galvaudée, pardonnez-moi, que transmetteuse vous entendez chez vos sœurs et que vous traduisez en français pour les dire toutes, elles et vous, leur vie, leur destin et l'Algérie. Puisque c'est en français que vous l'écrivez, ce libico-berbère. Je voudrais m'attarder un instant sur le mot francophonie au cœur de votre image. Parlant de vous, on vous dit naturellement écrivain francophone. Nous savons tout ce que les écrivains, qu'on dit francophones, apportent aux Français et à la littérature française. Pourtant, je sais qu'au mot francophone, vous préférez qu'on use à votre propos de l'idée d'auteur écrivant en français. Une manière de débat comme nous les aimons tant ici, c'est d'ailleurs instauré là-dessus voilà quelques semaines, mais il n'est pas neuf. Pour certains, la francophonie serait un ghetto, dont acte. Pour vous, le problème n'est pas là. Venus du plus profond de votre terre, vos voix, vous les entendez dans la langue de vos mères, mais vous les écrivez en français, en une langue dont la fluidité, les inflexions, votre chant reflètent jusqu'au plus intime les mouvements de cette langue de vos mères. Là n'était pas le débat de ces dernières semaines. L'arabe classique, troisième langue, vous ne le parlez pas. Vous répétez, je l'ai répété, que c'est souvent une blessure. mais c'est que le français, la langue de la première école, était tout naturellement devenue celle de votre écriture, la quatrième langue, celle par laquelle vous êtes entré parmi nous. Et pourtant, cette langue, c'était la langue de l'autre, pas seulement de ces instituteurs qui, comme votre père, vous ont ouvert une porte vers la liberté, mais aussi celle de l'adversaire, la langue de ceux qui, jusqu'en 1962, ont imposé à l'Algérie un ordre dont ce n'est pas le lieu ici, je ne suis pas historien, de tenter de mettre en balance ce qu'il a pu apporter de peine, de souffrance ou pour certains quand même d'ouverture. Dans l'amour, la fantasia, vous parlez longuement de la langue imposée qui, sous la plume des colonisateurs de 1830, décrit avec une terrible inconscience les épisodes les plus douloureux de la prise d'Alger. « Indécence, écrivez-vous de ces lambeaux de chair que la description n'a pu taire, raconté par un témoin pour qui tel petit combat offre, dit-il, un coup d'œil charmant. » Et vous vous interrogez, est-ce qu'écrire sur la guerre d'Afrique, c'est prétendre repeupler un théâtre déserté? C'est quand même la langue de ces hommes-là que vous avez choisi pour leur repeupler le théâtre de vos rêves à vous, le théâtre de cette Algérie, même si, après l'amour, c'est en arabe que parlent vos héroïnes. C'est cette langue que vous avez choisie pour transmettre ce que vous voulez qu'on sache. Et parce que vous savez, vous pensez que la langue de l'autre était la seule voix, VOX, comme la seule voix, VOIE. S'il ne s'adresse qu'en arabe à la sœur amante Nadia, Berkane, l'emblématique de ce magnifique roman qu'est la disparition de la langue française, explique qu'écrire et glisser à la langue française, c'est le moyen, à la langue franque, pardon, c'est le moyen de garder tout près la voix, les paroles de la femme aimée. Le français, c'est pour lui le prolongement naturel des échos dans sa chambre. Elle est enracinée si fort en vous, cette évidence de la langue française, qu'un de vos personnages se souvient douloureusement que jusqu'au récit juste lu dans un journal français de la mort d'un oncle un peu simplé, tué comme ça pour rien, mais on dira qu'il était un terroriste, il avait cru aveuglément, il avait alors 12 ans, à tout ce qui était écrit en cette langue. Entrée en scène pour vous en 1830 en habit d'apparat colonial, vous allez jusqu'à disputer les abâtardissements de cette langue. Quand transposé en cet arabe qu'on enseigne aujourd'hui, dites-vous, sous le terme pompeux de langue nationale, elle transporte avec ses scories les formules toutes faites d'un langage prétendument démocratique. Alors que votre parler à vous, madame, est l'un des plus riches qui soit, et sans même avoir recours à ces subtils glissements de langue à langue que nous admirons tant chez de ces écrivains que je continue à appeler francophones. Ainsi, un seul exemple, madame. Si vous avez emprunté à Delacroix le titre de l'un de ses tableaux, c'est véritablement le Delacroix que vous parlez lorsque vous peignez en une prose digne de toutes les morts de Sardanapale la mise à mort de ces 7 femmes qui osèrent insulter ceux qui, en 1830, venaient de tuer leurs époux. Mais je me rends compte que c'est d'une manière bien sombre que j'achève ce discours. Bien sûr, la guerre, la mort sont en filigrane de presque toute votre pensée. Et pourtant, ceux qui vous connaissent savent quelle femme chaleureuse, exubérante même, vous pouvez être. Quelle vraie vie, vous promenez hardiment, j'allais dire insolemment avec vous. Vous parlez de mort, oui, mais vous savez si bien aussi parler d'amour. Les pages si pudiques dans leur douce impudeur que vous lui consacrez dans la disparition de la langue française sont d'une si belle émotion. Comme sont touchants les émois de ces très jeunes filles qui écrivent leur premier amour, leur première lettre d'amour, ou comme sont d'une lumineuse poésie celles que vous écrivez sur la vie de la fille du prophète, ou sur votre mère recevant pour la première fois une carte postale écrite à elle par son époux, l'écriture, encore une fois, qui brave les tabous. Que dire aussi de vos descriptions de la vie de la Casbah, les gestes du petit peuple, votre attention aux humbles, des silhouettes qui reviennent de très loin, du fond de vos enfances. Que dire de votre art de nous raconter votre monde, celui d'hier et celui d'aujourd'hui, comme de votre habileté à construire et à nouer des intrigues à plusieurs voix, à jouer sur tous les registres du temps, des lieux, de l'histoire avec un grand H et de tant d'histoires tout court, sinon que vous êtes non seulement la femme de réflexion engagée et lucide que j'ai tenté de décrire, mais aussi une romancière hors pair. Et c'est vrai que j'ai peut-être trop occulté ce talent-là. J'ai peut-être une excuse. C'était dans mon souci de souligner tout ce qui, dans ses rapports avec la langue française, ne pouvait que conduire jusqu'à notre compagnie, cette femme musulmane née en Algérie qui ose dire « La langue française est mon armure ». Bienvenue parmi nous, madame.
Vous venez d'entendre la séance de réception d'Assia Djebbar à l'Académie française, élue en 2005, qui s'est déroulée le jeudi 22 juin 2006 sous la coupole de l'Institut de France.